l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Cette sonorité fougueuse d'un saxophoniste inspiré a été captée par nos soins lors du 37e festival Jazz en Tête à Clermont-Ferrand. Ce rendez-vous annuel dans le centre de la France présente chaque automne une foultitude d'artistes de grand talent pendant une semaine de festivités. Le 23 octobre 2024, c'est le saxophoniste James Carter qui enthousiasme les spectateurs dans un hommage à l'un de ses aînés, Eddie Lockjaw Davis. Avant que nous n'écoutions James Carter évoquer son héros, une petite mise en contexte s'impose. Eddie Lockjaw Davis a été un pilier du jazz dans les années 40. Il fut un contemporain de Louis Armstrong, Count Basie et Lafitte Gerald, d'entre autres. Son jeu pouvait être sensible et enflammé d'une seconde à l'autre. Et bien qu'il se distinguait singulièrement de ses homologues saxophonistes, son nom n'a pas vraiment résisté à l'érosion du temps. Quand il disparut le 3 novembre 1986, à l'âge de 64 ans, James Carter était encore un adolescent qui avait eu vent de ce personnage flamboyant, mais n'avait pas encore pris conscience de sa valeur et de son importance dans l'épopée des musiques noires. Ce n'est que bien plus tard, en devenant lui-même un musicien professionnel, que James Carter sentit le besoin d'honorer son aîné, dont l'aura semblait s'évanouir au fil des décennies. Voilà pourquoi le concert auquel nous avons assisté le 23 octobre 2024 à Clermont-Ferrand prenait une dimension patrimoniale qui ne pouvait pas nous échapper. Lorsque nous sommes arrivés, salle Jean Cocteau, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand, nous avons immédiatement perçu l'intensité de ce répertoire que James Carter voulait restituer dès les répétitions. James Carter étant la tête d'affiche du festival Jazz en Tête, il ne pouvait pas rater cette occasion de saluer la mémoire de son mentor, Eddie Lockjaw Davis. Il avait déjà rendu hommage sur disque à d'autres grandes figures du jazz, comme Django Reinhardt ou Billie Holiday, mais cette prestation semblait lui tenir particulièrement à cœur. Alors nous l'avons observé pendant la mise en place de ce concert, et nous l'avons interrogé sur ce saxophoniste qu'il respecte et qui le fascine, Eddie Lockjaw Davis.
Edward Frank Davis was a grandmaster of the tenor saxophone.
Edward Frank Davis, c'était son vrai nom, était un maître du saxophone ténor. Il était l'héritier d'une tradition initiée par Coleman Hawkins, Ben Webster, Chu Berry et Don Byas notamment. C'était un personnage très particulier, car il a appris seul à jouer du saxophone. Il est très rapidement devenu professionnel après seulement 8 mois de pratique intensive. Qui en serait capable aujourd'hui? On peut également dire qu'il fut l'un des pionniers du bebop. Il est né durant la période swing, mais il a très vite adopté le style bebop. Il a, de surcroît, été l'un des artisans de ce que l'on appelait les tenor battles, Il s'agissait de duels amicaux de saxophonistes qui pouvaient opposer des gens comme Lester Young et Herschel Evans, ou Gene Ammons et Dexter Gordon. Eddie Lockjaw Davis a, par exemple, croisé le fer avec Johnny Griffin. Dans son cas, les batailles de saxophone étaient l'occasion de mettre en relief les contrastes de sa virtuosité face à ses homologues. D'une certaine manière, il imposait son individualité artistique. Rappelons enfin qu'il fut l'un des piliers de l'orchestre de Count Basie aux côtés de Lester Young. On a aussi pu le voir en quintette avec le célèbre trompettiste Harris Sweets Edison. Il était incontournable à cette époque.
Et vous, comment l'avez-vous découvert, ce musicien Eddie Lockjaw Davis?
I bought an album called Basie Jam 3 on the Pablo label from the late 70s.
En fait, j'ai acheté un disque intitulé Basie Jam 3, enregistré dans les années 70. Il y avait sur cet album Count Basie au piano, John Hurd à la basse, Louis Belson à la batterie et le fameux Eddie Lockjaw Davis au sax ténor. C'est grâce à cet enregistrement que j'ai découvert cet incroyable musicien.
Votre jeu au saxophone, un peu rugueux mais si mélodieux, rappelle la tonalité de Eddie Lockjaw Davis. Est-ce que vous avez beaucoup écouté sa musique?
As time started progressing, yeah, the Basie Jam 3.
Avec le temps et en écoutant intensément l'album Basie Jam 3, mes oreilles se sont ouvertes et j'ai pu apprécier la sonorité d'Eddie Lockjaw Davis. J'ai découvert à quel point sa musicalité était différente de ses contemporains. Je pense que le fait qu'il ait appris à jouer seul du saxophone a forcément défini son style propre. Il n'avait pas de professeur ni de modèle. Il se débrouillait seul. Petit à petit, je me suis mis à écouter d'autres albums auxquels il a participé. Je pense notamment à l'album en public en enregistré en 1960 au Milton Playhouse, en compagnie de son alter ego Johnny Griffin. Et je n'oublie pas l'album Jawbreakers, dans lequel apparaît son camarade trompettiste Harry Sweets Edison. Et je pourrais poursuivre cette liste indéfiniment, car il y a tant de disques à découvrir. Prenez par exemple son association avec l'organiste Shirley Scott, c'est incontournable. Et bien sûr, les ténors et les
organes de lui et Shirley Scott. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer?
I actually did. A year before he passed, I was all of 16 years old and out on a second tour.
Oui, en effet, c'était un an avant sa disparition. J'avais 16 ans. Je participais à une tournée universitaire de jeunes musiciens en devenir. Cela se passait en août 1985. Eddie Lockjaw Davis donnait un concert à Copenhague. Cette prestation a d'ailleurs été filmée. Et ce fut certainement l'une de ses dernières apparitions en Europe.
That show was actually caught on videotape. It was one of his last shows across seas that actually captured the essence of him. Yeah.
Et avez-vous eu l'occasion de lui parler, de prendre des conseils?
Very brief and just.
Nous avons eu un échange très bref. Il m'a dit « Ne lâche pas ton saxophone, mon petit ». Je n'ai pas eu l'occasion de converser plus longuement avec lui ni de lui demander des conseils. J'aurais aimé qu'il me dise « Restons en contact », mais cela ne s'est pas produit. Il nous a quittés un an et demi plus tard, en novembre 1986. Bien après cette rencontre, précisément en 2017, l'un des responsables du musée du jazz à Harlem avait réuni différents objets appartenant à Eddie Lockjaw Davis, dont le fameux saxophone avec lequel il jouait lorsque je l'ai vu sur scène à Copenhague. Il se trouve que j'ai eu l'autorisation de pouvoir jouer sur cet instrument historique devant quelques invités privilégiés. Aujourd'hui, je suis en quelque sorte en charge de protéger et de préserver ce saxophone qui a marqué l'histoire.
Whenever I need to, I revisit it and make sure that it's playing and whatnot, and yeah.
Mm-hmm. Nous sommes avec James Carter cette semaine dans l'épopée. Eddie Lojo Davis a vécu les grandes heures du jazz, celles des big bands avec Count Basie, Benny Carter, Louis Armstrong. Il a côtoyé Ella Fitzgerald, Harry Sweet Edison, Johnny Griffin. On appelait ça l'âge d'or du jazz. Est-ce que vous ne regrettez pas de n'être pas né plus tôt?
Well, that's definitely a big regret to some extent, but
ça peut en effet être un regret, mais le fait d'avoir eu à mes côtés des parents comme ma mère et des proches comme mon oncle qui ont connu cette génération de musiciens apaise un peu ce regret de n'être pas né plus tôt. Mon oncle, par exemple, est un grand fan du chanteur et trompettiste Billy Eckstine. Il me racontait qu'il séchait les cours pour aller assister aux concerts de ses idoles. Il allait voir Duke Ellington ou Charlie Parker dans les clubs de sa ville natale. Il m'a souvent fait part de ses souvenirs de spectateur. Je l'entends encore me dire « si seulement tu avais pu être là ». C'est aussi la raison pour laquelle je continue à raconter toutes ces histoires, car il faut transmettre le message et la mémoire de ces musiciens. Tous ces grands instrumentistes nous ont légué un patrimoine, une manière de s'exprimer, des leçons d'autodidacte et, avant toute chose, une tradition que nous devons perpétuer au XXIe siècle.
Est-ce que les différents hommages que vous rendez à Django Reinhardt, Billie Holiday, Eddie Lojo Davis font de vous un historien du jazz?
I think the grand application of being in this music is to definitely be a historian.
Je pense que le fait de m'appliquer à jouer ces répertoires m'impose de raconter une épopée et d'une certaine manière de m'improviser historien. Il faut sans cesse rappeler que nos aînés nous ont transmis un héritage toujours vivace aujourd'hui. Il est très important à mes yeux de répéter cela indéfiniment. Il faut leur rendre justice. Trop souvent, leurs noms disparaissent dans les oubliettes de l'histoire. D'ailleurs, nous nous promenions dans un magasin de disques ce matin avec mon pianiste et j'ai constaté à quel point l'espace accordé aux albums de jazz s'est réduit au fil des décennies. Autrefois, nous donnions des concerts dans ces magasins pour promouvoir nos dernières productions. J'ai le souvenir que les bacs des disquaires consacrés au jazz occupaient des murs entiers. Aujourd'hui, en me baladant, j'ai constaté qu'il n'y avait plus qu'une petite rangée de disques dévolus au jazz. Je n'en reviens pas. Il faut absolument que les disques de nos aînés continuent à être vendus. On ne peut pas se contenter de quelques traces discographiques succinctes alors que le patrimoine de nos aînés est si imposant. Si les jeunes aujourd'hui n'ont pas la possibilité de découvrir par eux-mêmes le jazz d'hier, il faut que nous les incitions à s'y intéresser. C'est en invoquant leur mémoire à travers nos prestations que nous pourrons faire vivre leurs œuvres. Il faut impérativement que leur message résiste à l'érosion du temps. Ils nous ont appris à nous exprimer librement. Ce n'est pas qu'une question de style musical. C'est un mode de vie, une attitude, l'expression d'un sentiment profond. Parfois, vous avez le blues. À un autre moment, vous êtes enthousiaste. Il faut savoir interpréter ces émotions. Et c'est ce que nous ont transmis nos aînés. Il ne faut pas hésiter à être soi-même et à inciter la jeune génération à s'exprimer librement. La musique est justement un très bon vecteur d'affirmation personnelle.
Donc ça veut dire que votre rôle aujourd'hui, c'est d'éduquer les jeunes auditeurs.
Oh, most certainly.
Certainement, quand nous parlons de nos souvenirs de l'histoire du jazz, les jeunes ont le réflexe quasi instantané d'aller sur Internet et de regarder sur YouTube les vidéos des artistes que nous évoquons. De mon temps, il fallait qu'une opportunité se présente pour que nous puissions assister à la projection d'archives sur grand écran. Nous n'avions pas immédiatement accès aux archives des grands noms du jazz. Il fallait attendre que le cinéma du quartier propose une projection spécifiquement consacrée à nos héros d'antan. Quand j'étais gamin, il n'y avait même pas de cassette VHS. Il fallait donc espérer tomber, au hasard, sur un programme jazz à la télévision. Et c'était très rare. Aujourd'hui, il suffit de faire une requête sur Internet et vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Je pense que la jeune génération n'a pas conscience du privilège qui est le sien. Pour nous, regarder une vidéo d'un jazzman historique était unique. Il faut s'assurer que ce moment de la découverte reste un événement et ne soit pas banal aux yeux des jeunes spectateurs.
Just because you can get it easily now by going onto a screen doesn't take away from that effect, hopefully.
Et ce qui manque, c'est le contexte. quand on voit des archives, il faut expliquer aux jeunes ce qu'ils voient véritablement. Ce n'est pas juste une vidéo d'un artiste qui joue. C'est tout un ensemble de choses, y compris l'aspect social, la condition des Afro-Américains aux États-Unis au XXe siècle.
Well, of course, that's all inclusive in that sense, but
c'est un ensemble de choses. Par exemple, se réunir autour d'une table pour prendre le temps de discuter est devenu plus rare aujourd'hui. Certes, les difficultés socio-économiques n'arrangent rien. Cela dit, lorsque vous remontez dans le temps, lorsque vous pensez à la crise de 1929, à la Seconde Guerre mondiale, vous réalisez que les artistes étaient souvent un contrepoids utile à la morosité sociale d'alors. Ils étaient l'antidote à la tristesse et au découragement. Souvenez-vous des Zazou, à l'époque de Django Reinhardt. Ces musiciens prenaient le contre-pied de l'atmosphère terrible des années 40. Finalement, ces gens-là défiaient les institutions. La musique transcendait l'époque et a peut-être permis de sauver des vies durant cette période tragique de l'histoire mondiale. Cette humeur rebelle a résisté ici, en France. Cela fait partie de l'ADN des Français et j'en suis très heureux. Car cela me donne l'occasion de venir donner des concerts chez vous face à des spectateurs qui comprennent mon intention artistique. La musique est une forme d'expression qui combat le mal. Pour que les jeunes s'intéressent au patrimoine et se mettent autour d'une table pour en discuter, il faut donner de sa personne. C'est un enjeu essentiel. Il faut au moins leur dire que certaines personnalités ont existé. Libre à eux de relier les différents épisodes de ma narration en allant chercher par eux-mêmes d'autres documents. C'est ainsi que naît la curiosité. En les plongeant progressivement dans une quête personnelle, leur individualité se développera plus vite. Si certains d'entre eux envisagent de devenir musiciens, ils auront une identité artistique plus forte et solide. Ils comprendront ce que signifie se transcender. Ils pourront plus facilement s'adresser au plus grand nombre.
For the beauty that they were hearing in their ears that eventually they did externalize and give to the masses.
James Carter, vous avez eu le privilège de jouer aux côtés d'autres grands saxophonistes, dont Benny Golson, qui nous a quittés le 21 septembre 2024 à 95 ans. Quel souvenir garderez-vous de ce pilier du jazz ?
Mon premier souvenir de Benny Golson remonte à mon examen scolaire avec mon professeur de musique, Donald Washington. J'avais envisagé d'abandonner le saxophone, car même si j'aimais le jazz, l'enseignement musical que l'on m'avait dispensé jusque-là était inadapté à mon jeune âge. J'étais un préadolescent à l'époque. C'était très scolaire et très théorique. Il fallait apprendre par cœur. Je me débrouillais, mais je voulais surtout jouer ce que j'entendais à la radio. Au lieu de... Alors que je me débattais avec mes propres contrariétés, j'ai remarqué un poster sur le mur de l'école qui présentait le Blue Lake Fine Arts Camp, un établissement qui proposait des cours de musique adaptés aux jeunes instrumentistes en herbe. Sur l'affiche, on voyait un jeune en train de jouer du cor face à un lac. J'ai commencé à rêver et je m'imaginais devant ce lac avec mon saxophone. Et mon éducateur me décourageait sans cesse.
Well, you're not going there because they don't have a program, they don't have music, and your reading is this, that, and other, and you're not going to, you know.
Tu ne pourras jamais suivre avec autant d'assiduité plusieurs types d'enseignement. Je me suis dit qu'il me faudrait peut-être attendre quelques années avant que je puisse intégrer cet établissement si tentant. Je m'étais donc fait une raison, et j'allais tout abandonner quand ma mère en a parlé à mon frère aîné, Kevin. Il se trouve que Kevin avait un ami qui allait devenir mon mentor, le professeur Donald Washington. Il a accepté de me rencontrer et m'a proposé de passer un test d'évaluation. J'ai aussi remarqué qu'il y avait des tonnes de saxophones et de clarinettes dans son bureau. J'étais épaté. Sa famille était composée de musiciens, un peu comme la mienne d'ailleurs. Sa femme était une chanteuse lyrique. Elle savait aussi jouer de la flûte traversière et du violoncelle. Ses enfants jouaient de la batterie et chantaient également dans des chorales. Tout cela me rappelait l'environnement familial dans lequel j'évoluais. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié votre question sur Benny Golson. Bref, Donald Washington a accepté de me donner des cours chaque samedi de 11 à 14 heures. Aujourd'hui, cela coûterait $50 la séance. Lui me demandait $5 pour les 3 heures d'enseignement. Je revois ma mère lui donner un chèque de $20 pour le mois entier. Pour susciter mon intérêt, mon nouveau professeur m'a d'abord fait écouter Blues March, le classique de Benny Golson.
Just played it out and I'm listening to a sound first off because
j'ai alors entendu le son de ce fameux saxophoniste qui me paraissait élastique. On entendait toute l'expressivité de Benny Golson. J'ai aussi découvert à cette occasion les différentes tonalités des saxophones, alto, ténor et baryton. Mon professeur Donald Washington savait reproduire tous ces accents du jazz en jouant par exemple « In a Sentimental Mood » de Duke Ellington. Je m'inspirais de lui sans vraiment m'en rendre compte et il est aujourd'hui mon chaperon. Il aura 85 ans en décembre prochain. Tout ça pour vous dire que j'ai découvert Benny Golson à cette époque-là et j'ai alors commencé à étudier son répertoire et notamment des classiques comme Killer Joe, Stablemates, Along Came Betty, etc. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir un jour rencontrer Benny Golson en personne. J'ai réalisé récemment que j'avais même enregistré une chanson avec lui dans les années 90. J'avais complètement oublié cette session. Nous nous sommes revus plusieurs fois jusqu'à son décès. En 2015, j'étais par exemple à ses côtés lors de l'hommage que nous rendions à Sonny Rollins à l'Apollo de Harlem. L'année dernière, j'étais encore en sa compagnie au même endroit et j'ai évidemment pris quelques photos souvenirs.
Quand on est face à de telles sommités, comment réagit-on ? Redevient-on un élève face au maître ou parvient-on à oublier ce que ces gens représentent dans l'épopée des musiques noires ?
Actually, one of the last times that Benny and I talked, I hear you in there, you're showing off this, that, and other, and you're playing this, and you're playing that, and...
La dernière fois, il s'est un peu moqué de moi. Il me disait que j'en faisais trop, en quelque sorte. Mais j'ai pris cela pour un compliment. Mon professeur me disait souvent « ne te retiens pas ». Avoir des reproches de ses aînés est une constante dans l'histoire du jazz. Le saxophoniste James Moody racontait souvent qu'à ses débuts, lorsqu'il se produisait sur scène, il remarquait Coleman Hawkins et Lester Young qui l'observaient. Il devait se dire « voyons ce que ce jeune a à nous offrir ». Quand j'ai joué pour la première fois au Village Vanguard à New York, le vétéran Lou Donaldson est venu me voir et m'a dit « tu joues trop fort ». Le club gagnera sûrement plus d'argent en laissant sortir les spectateurs qu'en les laissant entrer.
Yeah, man, you playing wild. They're gonna make more money trying to charge people to get out before you know.
Finalement, il faut être soi-même. Et nos aînés le savaient mieux que personne. Ils savaient que nous prendrions le relais en étant nous-mêmes pour que la musique reste vivace et dans l'air du temps.
Gonna do that, and that you have to do that in order to keep things happening.
Vous avez 55 ans, James Carter, dont 30 ans de carrière. Est-ce que votre rôle est de transmettre votre savoir aujourd'hui ou de sans cesse innover ?
All the above. It's like we mentioned before, carrying on the tradition.
Comme je le disais tout à l'heure, il faut se servir de la tradition pour développer son propre vocabulaire musical. Cela peut être utile pour apprendre le compromis sans renier ses valeurs intimes et pouvoir célébrer la chance qui nous est offerte de vivre pleinement nos passions.
J'aimerais savoir ce que vous nous préparez, parce que depuis quelques années, on attend un nouvel album de James Carter. Donc, qu'avez-vous comme projet dans les mois ou dans les années qui viennent ?
Well, hopefully this... This Lockjaw project will be the next thing up on the board. In fact,
cet hommage à Eddie Lockjaw Davis sera certainement mon prochain projet discographique. Il se trouve que le Minton Playhouse, où les plus grands jazzmen de l'histoire ont joué autrefois, renaît de ses cendres. On m'a d'ailleurs proposé d'être le consultant culturel de ce club de jazz historique, géré désormais par une très jeune équipe. Ces jeunes gens veulent raviver la flamme en faisant appel à des musiciens novateurs. Je leur ai rappelé que le Minton Playhouse fut un club attaché à la tradition du jazz et doit conserver cette dimension patrimoniale. Ils ne doivent pas seulement inviter des artistes de R&B ou des rappeurs pour attirer le public. Je leur ai donc suggéré d'enregistrer un album sur place qui serait mon hommage à Eddie Lockjaw Davis, car ce grand musicien fut un pilier du club quand il jouait dans l'orchestre de Teddy Hill. Il a également enregistré un album en public à cet endroit-là. Bref, j'aimerais poursuivre cette aventure en mémoire de M. Davis pour que son nom continue d'inspirer les plus jeunes, comme c'est le cas pour moi. Je trouve l'inspiration chaque soir sur scène grâce à mes aînés. Cela ne veut pas dire que je ne joue pas d'œuvres originales. Je veux surtout rendre actuel un répertoire que l'on a dit daté. Nous allons donc continuer à aller de l'avant et cette épopée, je l'espère, ne s'arrêtera pas.
It just won't stop.
La première fois que nous nous sommes rencontrés, James Carter, c'était il y a presque 20 ans. Est-ce que vous avez senti les années passer ?
Bien sûr, j'ai donné récemment un concert au Blues Alley, un club de Washington. Et je racontais au public que ma première prestation à cet endroit remontait à décembre 1985. J'étais alors dans l'orchestre de Wynton Marsalis. J'avais 16 ans. J'ai entendu la stupeur des spectateurs. En 2025, cela fera 40 ans que je me suis produit là. J'ai l'impression que c'était hier. Le club me paraissait immense, alors qu'aujourd'hui il me semble si petit. Depuis, j'ai vécu tant de choses, rencontré tant de gens. Mon histoire se poursuit. Rendez-vous compte, j'ai participé au film de Robert Altman, Kansas City, il y a 30 ans. J'étais en compagnie de Jerry Allen, Kevin Mahogany, David Fathead Newman, Claude Williams, qui était le premier guitariste de l'orchestre de Count Basie. Il jouait même du violon. Lorsque le producteur John Hammond a découvert Count Basie dans les années 30, il a congédié Claude Williams et a fait appel à Freddie Green pour que l'orchestre devienne plus populaire. Il y a en effet une part de nostalgie dans mes propos, mais je suis heureux d'avoir vécu tous ces moments privilégiés qui avaient de surcroît beaucoup de substance et que je peux transmettre à mes contemporains. Je peux légitimement dire que ces musiciens ont existé, qu'ils jouaient de telle manière, qu'ils se comportaient ainsi, etc.
En tout cas, nous attendrons avec impatience votre album enregistré au Minton Playhouse en hommage à Eddie Lockjaw Davis.
Yes, indeedy. Long live the lock.
Merci beaucoup, James
Merci.
Carter.
Merci à toi.
Inutile de vous dire que la prestation de James Carter à Clermont-Ferrand fut très bien accueillie par les vrais amateurs de jazz qui se retrouvent chaque année depuis 37 ans au festival Jazz en Tête. Je tiens d'ailleurs à remercier une nouvelle fois les équipes de ce festival authentique, Xavier Fitzgerald et Valérie Roux en tête. Merci à nos confrères de France 3 d'avoir amicalement mutualisé leurs moyens techniques régionaux pour vous permettre de découvrir ces extraits de concert captés par les oreilles avisées de Richard Rifonneau, que je félicite au passage. Merci à Jean-Noël Ginibre d'avoir permis cette rencontre avec James Carter et mes compliments appuyés à Nathalie Laporte pour la supervision et la réalisation finale à Paris. La semaine prochaine, nous allons parler d'Aretha Franklin à la faveur d'un ouvrage signé Frédéric Adrian, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Cela me donne l'occasion de vous rappeler que le 26 novembre prochain, c'est mardi, le Harlem Gospel Choir, un chœur gospel américain très réputé, rendra hommage justement à Aretha Franklin à l'auditorium de la scène musicale sur l'île Seguin, près de Paris. Nul doute que la ferveur de la Queen of Soul rejaillira instantanément. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.